Chapitre 37. Roger n'avait point parlé à Raphaël de la demande d'un conseil judiciaire. À quoi bon la tourmenter? Elle saurait toujours la vérité assez tôt, quand le jugement serait rendu. Mais il ne put pas attendre jusque-là. Un matin, en rentrant chez lui, il trouva Mautravers installé dans son salon, depuis assez longtemps déjà. En le voyant entrer, Mautravers vint à lui vivement, les mains tendues. « Mon cher, dit-il, j'ai appris ce matin le danger dont vous êtes menacé et je viens me mettre à votre disposition si je puis vous être utile à quelque chose. » Comme de tous ses amis, Harley était le seul qui l'eût mis au courant du procès, Roger resta un moment surpris. « Et qui vous a appris ce danger ? » demanda-t-il. « Ce journal. J'espère que vous allez vous défendre vigoureusement. »« Sans doute. Comment ?» Roger regarda un moment Mautravers dans les yeux. « Cela regarde mon avoué et mon avocat, » dit-il enfin. Maintenant, le secret que Roger avait voulu garder vis-à-vis de Raphaël n'était plus possible. Elle allait apprendre la vérité par ce journal ou par quelque indiscrétion, mieux valait donc la lui faire connaître. Tout de suite, il se mit en route pour le boulevard Haussmann. Il avait laissé Raphaël au lit, sans doute allait-il l'y trouver encore. Mais il ne l'y trouva point. « Madame est chez ses parents, » dit la femme de chambre. « Je vais la prévenir que monsieur le duc désire la voir. » Roger attendit. En effet, Raphaël avait pour habitude, aussitôt que son petit duc l'a quitté, de passer un jupon de laine et un caraco, non une de ces belles robes de chambre qu'elle gardait pour les heures où elle était en représentation dans son salon ou son boudoir, et plus libre, plus à son aise dans ce costume qui avait été celui de sa jeunesse, redevenue la fille des faubourgs, elle s'en allait faire une visite matinale à ses parents et bien souvent déjeuner avec eux et quelques vieilles amies de sa mère qui, certaines de trouver table servie, étaient fidèles au boulevard Haussmann. Alors, sur le poêle, qui servait à la fois au chauffage et à la cuisine, on faisait cuire des saucisses à la poêle et l'on faisait sauter du foie au vin bleu. Monsieur Houssu, devenu depuis peu le mari de la mère de Raphaël et par conséquent le père légal de celle-ci qu'il avait reconnue, ne dédaignait pas de mettre la main à la cuisine, en manche de chemise, son pantalon bien tiré par des bretelles en cuir tendues sur sa large poitrine, comme les buffleteries qu'il avait si longtemps portées. Il hachait le persil ou tournait le foie tout en fumant sa pipe du matin. On se mettait à table et longuement on déjeunait en bavardant, en racontant des histoires d'autrefois, du bon temps, du temps de misère, et aussi en s'occupant d'affaires, spécialement des prêts que M. Houssu faisait à la petite semaine, employant pour le mieux les économies de sa fille. Puis sur la table encombrée d'assiettes, de fourchettes, de croûtes de pain, pendant que le marc de café bouillait, Raphaël jouait d'interminables parties de bésigue ou de piquet avec son père, à cheval sur une chaise et sacrant tous les seins quand il perdait. C'était là seulement que Raphaël se retrouvait. Le reste de son existence était une sorte de rêve auquel elle ne croyait pas beaucoup et qui, elle en avait vaguement conscience, devait se terminer un jour ou l'autre par un réveil aussi brusque que désagréable. Ce fut au milieu d'une de ces parties de bésigue qu'on vint la prévenir que le duc l'attendait. Vivement, jetant les cartes sur la table au grand désespoir de son père qui voulait finir la partie bien commencée pour lui, elle rentra chez elle. « Eh bien !» Roger donna le journal en posant le doigt sur le passage qui les intéressait. Elle se jeta dans ses bras et longtemps elle le tint serré sans parler, ayant besoin de se remettre et de réfléchir à ce qu'elle allait dire. Ce coup la frappait d'autant plus violemment qu'elle commençait à s'habituer à l'existence brillante que le duc lui avait faite. On la citait parmi les femmes à la mode, elle comptait, on la remarquait, on s'inquiétait d'elle lorsqu'elle faisait sa promenade autour du lac dans sa voiture. Elle était en passe de devenir une puissance. « Alors, dit-elle, tu vas te retrouver sans argent ?» « Cela est à craindre. »« Que vas-tu faire ?»« Je ne sais pas, je n'ai pas encore cherché. » Elle réfléchit un moment. « Ton procès est commencé, dit-elle, il n'est pas jugé. Il s'écoulera encore un certain temps avant ce jugement, n'est-ce pas ?»«
Sans doute. » »«
Pendant ce temps, tu restes libre. Si tu profitais de cette liberté pour emprunter une grosse somme qui te mettrait pour longtemps à l'abri des embarras d'argent ?»«
C'est impossible. »
Un moment encore, elle garda le silence, comprenant qu'elle avait fait fausse route. Mais sa force consistait surtout dans son habileté et sa souplesse à se retourner.
« Eh bien, ce que tu ne peux pas faire, »
dit-elle en tendant les deux mains à Roger bravement et résolument,
« je le ferai, moi. Je n'emprunterai pas parce que emprunter coûte trop cher, mais je vendrai. Ce mobilier, les chevaux, les voitures, la maison de Saint-Prix, les bijoux, je vendrai tout. Et puis, je louerai un tout petit logement où tu viendras me voir. Personne ne saura que tu es mon amant. Je dirai à tout le monde que nous nous sommes quittés. Je pourrai vivre là avec l'argent que j'aurai retiré de la vente et nous attendrons ainsi le moment où tu seras parvenu à te débarrasser de ton conseil judiciaire. Alors nous regagnerons le temps perdu et nous nous rattraperons des mauvais jours. » Tout cela fut dit passionnément, avec l'exaltation du sacrifice et du dévouement. Roger en fut profondément ému. Il était dans des conditions où le cœur s'ouvre facilement à une parole de tendresse, et ce témoignage d'amour et de générosité que lui donnait sa maîtresse ne pouvait que le troubler délicieusement. Il la prit dans ses bras et, longuement, il l'embrassa. « Non, dit-il, non, je n'accepterai pas ce sacrifice. » Mais je n'en suis pas moins heureux que tu en aies eu l'idée. »
C'était bien naturel ?
Peut-être, mais en tout cas, ce serait indigne à moi de l'accepter. Je chercherai, sans doute je trouverai quelque chose.
Et si tu ne trouves pas ?
Il resta un moment accablé.
Elle recula de quelques pas et, parlant, les yeux baissés,
tu sais bien, n'est-ce pas, que je t'aime ? Et qu'il n'y a que toi au monde que j'aime. Eh bien, si je prenais Poupardin, ce serait toujours toi, toi seul que j'aimerais. »
Il se leva violemment et vint à elle les bras tendus. Alors elle recula encore de quelques pas et, souriant,
« Comment, dit-elle, ne vois-tu pas que je ne parlais pas sérieusement? C'était une épreuve pour voir jusqu'où tu m'aimais. Je l'ai vu. Qu'importe le reste, qu'importe la misère, tu es et tu seras toujours mon Dieu. »